Question d'islam par Ghalib Ben Cheikh. Aujourd'hui, nous parlons de médecine, de sciences médicales, en lien avec la spiritualité islamique, et tout particulièrement de la médecine du prophète. Alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire de médecine du prophète ? Il se trouve que le prophète de l'islam lui-même avait quelques notions dans ses aphorismes de prophylaxie, de prévention quant aux questions de médecine, de maladie, de guérison. Mais c'est surtout le titre d'un ouvrage que nous présentons aujourd'hui avec deux médecins, écrivains, essayistes, et j'ai le plaisir de les recevoir. Ce sont Dr Michel Canesi, bonjour.
Bonjour.
Et Dr Jamil Rahmani, bonjour.
Bonjour.
Merci de venir nous parler de la médecine du prophète. Vous avez en réalité traduit et annoté un autre ouvrage du même titre d'un polymathe, d'un érudit du 15e siècle, charnière 15e, 16e siècle. Et vous l'avez publié chez Jean-Claude Lattès avec ce titre bien portant, avec la médecine du prophète. Michel Canesi, comment êtes-vous amené à vous intéresser d'abord à ce sujet ? La médecine, d'un côté, vous êtes médecin, mais la médecine du prophète, c'est votre amitié avec Jamil Rahmani ?
C'est une double amitié. C'est mon amitié avec Jamil Rahmani et c'est notre amitié avec Isabelle Baudis, qui est éditrice et qui, pour cet ouvrage qu'elle a coédité chez Lattès, nous a demandé si ça nous intéressait de parler et d'analyser ce livre d'Assuyuti. C'est comme ça que nous sommes lancés là-dedans, Jamil et moi. Même si moi, évidemment, moi je suis chrétien, donc mais c'est toujours intéressant d'ouvrir sur d'autres formes de médecine. Et voilà, donc ça m'a intéressé de faire cette exégèse, d'autant plus que, comme vous le signaliez tout à l'heure, Assuyuti est un homme de charnière 14e, 15e siècle, et c'est exactement un contemporain de Léonard de Vinci. Ils se sont, je crois, jamais rencontrés, mais ils ont vécu à la même époque. Donc ce fait-là est important à souligner.
Nous aurons à parler de l'homme, mais Jamil Rahmani, vous aussi, quel est l'intérêt que, outre l'amitié réelle, et l'amitié est peut-être l'une des rares choses que nous continuons à sacraliser de nos jours, à juste raison, en dehors de votre amitié, cette double amitié pour Isabelle Baudis et pour votre confrère et ami Michel Canesi, quel est l'intérêt pour vous de coéditer, coécrire cet ouvrage?
Écoutez, j'étais un petit peu réticent au départ parce que je n'avais pas lu Assuyuti. Et quand j'ai lu sa médecine du prophète, j'étais surpris par l'actualité de certains conseils. Et notamment, il y a une chose qui m'a frappé. C'était que le prophète recommandait de ne pas boire dans un récipient dont on ne voyait pas ce qu'il contenait, en disant, écoutez, vous risquez d'avaler une sangsue si vous buvez un récipient opaque. Et je me suis souvenu que ma grand-mère, quand elle me voyait boire au robinet, me disait, mais malheureux, qu'est-ce que tu fais? S'il y a une sangsue dans les canalisations, elle va s'accrocher à ta gorge. Et je me suis dit, mais à quel point j'avais été imprégné de ces principes issus du Coran, des hadiths, puisque toute mon enfance a été bercée par les conseils d'Assuyuti. Et c'est là que j'ai décidé d'accepter de critiquer ce livre.
Ah, juste raison, c'est une critique académique. Mais permettez-moi de dire d'emblée que ne pas boire dans un récipient dont on ne voit pas le contenu ou le fond relève du bon sens avant tout. Alors, vous avez évoqué l'un et l'autre Assuyuti, c'est-à-dire quelqu'un d'Assyut. C'est pour ça qu'on l'appelle Assuyuti. C'est un grand personnage.
C'est un très grand personnage, c'est un grand érudit. Il s'est intéressé à beaucoup de choses dans sa vie. Il a surtout écrit des centaines de livres. Hein. On en compte 400 connus, et il en aurait écrit plus de 900. Et il a une destinée tout à fait intéressante et tout à fait particulière. Son père demande un jour à sa mère, qui était enceinte, d'aller chercher un livre dans la bibliothèque familiale, ce qu'elle fait, et les affres, les douleurs de l'enfantement la saisissent dans la bibliothèque, et elle accouche dans cette bibliothèque, et c'était vraiment tout à fait prédestiné. Et on a donné d'ailleurs
son nom,
le surnom d'Ibn Kutub, le fils des livres, à Suyuti.
Et vous vous disiez qu'il était contemporain de Léonard de Vinci.
Oui, j'aime bien mettre
en exergue
ce parallélisme, cette temporalité dans laquelle ils s'inscrivent tous les deux, parce que évidemment. Pour les Occidentaux, en tout cas, Léonard de Vinci est beaucoup plus connu qu'à Suyuti. Mais je trouve que j'aime l'idée qu'ils aient vécu dans la même temporalité. Et en fait, à notre insu, nous avons récupéré beaucoup, beaucoup de l'enseignement d'Asuyuti aussi, même si Léonard de Vinci a été touché à tout peut-être encore plus universel, dans le sens où c'était un peintre, un sculpteur, un architecte, ce que je crois n'était pas tout à fait Asuyuti.
Non, Asuyuti était un grand théologien de tendance chaféite, si je devais donner encore la tendance parmi les quatre grandes écoles juridiques et théologiques. Mais surtout, c'était un polymathe, un érudit, un esprit encyclopédique.
Et on dit que c'est le dernier grand encyclopédiste du monde arabe, enfin du monde musulman.
Oui, du monde musulman, vous avez raison, parce que son père est d'ascendance persane et sa mère est circassienne. Et cette idée, cette destinée de naître dans une bibliothèque est extraordinaire. On en a un qui est mort dans une bibliothèque, sous le poids des livres, c'est Al-Jahiz, l'homme aux yeux exorbités. Et on en a un qui est né dans une bibliothèque, et c'est Al-Suyuti. Il est né en mois d'octobre 1445, mort au mois d'octobre 1505, 60 ans. C'est une bonne espérance de vie pour le 15e siècle.
Oui, ça me semble pas mal. Je pense que il était nettement au-dessus de l'espérance de vie moyenne, de la moyenne.
C'était 25
ou 30 ans, les gens mouraient facilement.
Il a composé de nombreux ouvrages, vous l'avez dit. C'est vrai que ça a avoisiné les 900, ce dont on dit, les 400 sont connus. Il y a des traités d'érotologie. C'est extraordinaire pour l'homme, d'une manière très qui marquait l'art de vivre et l'hédonisme qui prévalait ou qui imprégnait la civilisation islamique. Et donc, de tous ces ouvrages, il y a le livre sur la perfection ou le guide parfait de la connaissance du Coran ou des études coraniques. Ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la médecine du prophète. Vous l'avez lu, Jamil Rahmani?
Je l'ai lu, oui, mais pas en arabe. J'ai lu la traduction
de Perron,
de Nicolas Perron, oui. Nicolas Perron, qui était un médecin et qui a dirigé à Alger le collège franco-musulman, le collège impérial en fait, qui avait été fondé par Napoléon III dans sa grande politique du royaume arabe et qui a disparu. À la chute de l'Empire.
Michel Canizzi, sous votre contrôle, j'ai envie de dire une chose d'emblée, en tout cas qui me tient à cœur, et comme ça pour les auditeurs dont je suis le médiateur entre vous et eux, c'est qu'il ne s'agit pas dans cette médecine du prophète de quelques recettes qu'on voit un peu pratiquer, notamment dans des tendances dites salafistes ou fondamentalistes, et qui n'obéissent pas au canon de la médecine rigoureuse, contemporaine, scientifique et savante.
C'est, oui, bien évidemment, je suis entièrement d'accord avec vous. D'ailleurs, c'est pas tellement ça qui m'a donné envie de participer à cet ouvrage. D'abord, Isabelle Baudis m'a un jour cité une phrase qui est extraite du Coran, je crois, et qui a piqué mon intérêt en tant que dermatologiste, c'est que il est écrit « Le jour du jugement dernier, votre peau témoignera contre vous ». Alors, avec une phrase pareille, si vous voulez, on peut pas laisser ça sans réponse. Genre, ça m'a intrigué. Et puis, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont obsolètes, bien évidemment, scientifiquement, mais nous arrivons dans un monde hyper technologique, où la médecine est devenue hyper technologique. Et À la lecture d'Asuyuti et de sa traduction que nous avons utilisée, on s'est rendu compte que il y a de l'humanité, beaucoup de bon sens aussi, et c'est ça que nous et de la poésie. Donc c'est ça qui nous a intéressés. C'est l'aspect poétique, parce que je trouve, alors vous allez dire, il est étrange ce médecin, mais on a parfois aussi besoin de poésie. Je vous raconterai juste une anecdote. J'ai vu l'autre jour une patiente qui vient me voir et elle me dit « Je suis très en colère après vous ». Ah, je lui dis mais pourquoi madame? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je vous ai fait? Vous m'avez fait attendre 2 mois et demi pour un rendez-vous. Et je lui dis « Mais écoutez, vous aviez un problème urgent, il fallait aller aux urgences, etc. » Oui, je suis allé, ils m'ont donné des traitements. Mais vous, en me donnant pratiquement les mêmes choses, vous me soignez, vous me guérissez. Alors j'étais étonné de sa réflexion, mais en fait, quand j'ai réfléchi à ça, je me suis dit « Il y a quelque chose là ». C'est ce qui se passe entre elle et moi, quelque chose qui va au-delà de la médecine et du don d'une molécule active. Il y a quelque chose qui est dans l'indicible,
Il y a le soin de l'âme.
Il y a le soin de l'âme. Il y a le soin de l'âme et cette femme qui était, alors finalement, elle est partie très apaisée. Donc je me dis, ça marche encore. C'est ça la médecine. Il y a cet aspect-là, qui est fondamental et qu'on a tendance à oublier aujourd'hui dans l'hypertechnicité.
Donc l'effet des relations humaines entre patients et médecins est un effet important.
Ah, complètement. C'est ce que dit Asuyuti d'ailleurs. Au-delà d'Asuyuti, ce qui nous a frappé, c'est la similarité des médecines occidentales et musulmanes jusqu'au XVIIe siècle. On soignait de la même manière à Londres, Bagdad, Damas ou Paris.
Parce qu'il y a la longue tradition de la médecine arabo-islamique, arabo parce que l'expression était dans langue arabe, mais l'empire était au-delà. Il y a l'académie de Gundishapur des Bartichous.
Tout à fait.
Et puis ça s'origine aussi chez Galien, chez Dioscoride, chez Hippocrate, etc.
Complètement.
Quel est le maître mot, j'ai vu dans l'ouvrage, et qui est aussi chez Suyuti, c'est dans la médecine du prophète, c'est la tempérance.
Et dans le Coran aussi, c'est la tempérance. Le prophète a dit, nous sommes la religion du juste milieu. Et tout dans la médecine du prophète oriente vers cette tempérance. Il faut manger, mais pas trop. Ce sont de vieux conseils d'Hippocrate. Hippocrate disait, il faut surtout pas empiler nourriture sur nourriture et il faut quitter la table en ayant encore un peu faim. Il faut boire modérément, il faut faire du sport, faire de l'exercice. Il y a même des conseils très précis, tirer à l'arc, faire du cheval. Mais avec tempérance. C'est-à-dire qu'au moment où vous commencez à transpirer, vous devez vous arrêter. De même que vous devez faire l'amour avec modération. Donc tout cela, c'est issu des principes de tempérance de la Grèce antique et puis de l'islam.
Et c'est amusant de voir à quel point toute cette tempérance est en train de revenir aujourd'hui dans un phénomène de mode sur le manger-bouger, enfin tous ces réflexes.
Ah, c'est très bobo.
C'est très bobo pour prendre un terme à la mode.
La tempérance corrobore cette idée que la vertu est une position médiane entre deux extrêmes, le vice et l'excès de vertu. In medio stat virtus, disent nos auteurs latins. Et donc, vous pensez, Jamil Rahmani, que l'ensemble de la civilisation et la spiritualité qui la sous-tend est fondée sur cette notion de juste milieu, de tempérance, d'éloignement des extrêmes.
Tout à fait. En tout cas, c'est ce que le Coran prône. Et c'est ce qu'un certain nombre de gens ont dénaturé en allant vers les extrêmes.
Et à propos de la nourriture, il y a cet aphorisme. Maintenant que vous l'avez évoqué, ça me revient à l'esprit. Le prophète disait « Nous sommes une communauté qui ne mange que jusqu'à l'éprouve le besoin de manger, c'est-à-dire lorsqu'elle a faim, et elle ne mange pas jusqu'à ce qu'elle n'ait plus faim. » Donc ça revient à ce que disait Hippocrate. Après, nous verrons telle ou telle recette, si j'ose dire, je mettrai le mot entre guillemets. Vous l'avez mis vous-même aussi entre guillemets dans l'ouvrage pour telle ou telle maladie. Comment les choses sont-elles présentées dans le livre de Suyuti, donc la médecine du prophète? Il a classé les choses selon des portiques, comme on disait à l'époque. Quelles sont les disciplines ou sous-disciplines de la médecine traitées?
Il parle de l'embryologie, il parle de l'anatomie, il parle de diététique, et il donne toute une énumération de légumes, de fruits, de parfums qui ont des vertus. Qui ont des vertus thérapeutiques. Et nous avons suivi un petit peu son plan, et il commence en parlant de la théorie des humeurs.
Voilà.
La théorie des humeurs qui a baigné la Grèce antique, qui a baigné la Rome antique, et qui continue de baigner la civilisation occidentale et la civilisation orientale. On dit, j'ai attrapé froid, il est d'un tempérament bilieux.
Il est mélancolique,
il est atrabilaire. Mais tout ça vient de la théorie des humeurs. Et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu faire ce livre, en montrant à quel point la civilisation dite occidentale et la civilisation dite orientale sont très proches. Elles sont issues des mêmes sources.
Oui. Alors, permettez-moi, cher Jamil Rahmani, qui dit islamique ne dit pas nécessairement oriental.
Non, bien sûr. Je suis tout à fait d'accord.
Parce que selon la classification.
Oui, l'Orient est vaste, hein. Il y a l'Extrême-Orient, il y a l'Orient proche.
Oui,
bien sûr.
À ma connaissance, l'école pratique des hautes études classe les sociétés musulmanes comme étant des sociétés savantes occidentales. Au sens où, à un moment donné, de 711 à 1492, ce fut un Occident absolu. Michel Canesi, outre la théorie des humeurs, il y a aussi la notion des tempéraments, des quatre tempéraments,
oui.
Que vous avez évoqués, effectivement.
Les quatre tempéraments, c'est... Vous voyez, là, on va retrouver un peu l'aspect poétique de tout ça, parce que moi qui... pour des raisons particulières dans ma vie, me suis beaucoup intéressé à la danse. Il y avait un très beau ballet qui s'appelait Les Quatre Tempéraments. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais qui évoquait justement ces quatre tempéraments-là. Molière fait aussi référence aux quatre tempéraments. Je trouve que ça fait un point de contact entre ces deux médecines, ces deux aspects, justement, parce que on ne le savait pas vraiment avant de découvrir les écrits d'Asuyuti.
Ah, les deux médecines sont strictement identiques. Elles sont issues de la même culture gréco-romaine. Hein, et la thériaque,
qui est
le traitement universel qui est censé traiter tout. Eh bien, c'est le médecin de Néron qui l'a mise au point, qui a mis au point sa formule et qui a été utilisée dans le monde occidental et dans le monde musulman jusqu'au 19e siècle. Il était dans le codex.
Et on l'appelait thériaque en arabe aussi.
Et on l'appelait thériaque.
On dit aussi que, jusqu'à une période relativement récente, la médecine occidentale était en retard par rapport à la médecine arabe pour la simple raison que les autopsies n'étaient pas autorisées. Et ça, c'est quand même un phénomène extrêmement important, parce que les autopsies ont fait beaucoup progresser la médecine dans la connaissance de la circulation, etc. Ensuite, il y a eu un basculement, pour des raisons que j'ai du mal à imaginer. Je ne sais pas pourquoi, subitement, la médecine occidentale est devenue plus technique et a un peu supplanté la médecine arabe.
Alors, pour corriger un peu ce que tu dis, la circulation, justement, c'est ce qui a fait s'effondrer, au XVIIe siècle, la médecine...
La théorie des humeurs, tu veux dire ?
La théorie des humeurs, parce qu'on s'est rendu compte que Averroès n'avait pas dit la vérité sur la circulation. Et c'est un Anglais au XVIIe siècle qui a découvert réellement comment fonctionnait la circulation dans le corps humain et qui a donné un coup à la médecine traditionnelle.
Parce qu'Averroès, en dehors de son poème médical, n'était pas connu comme un grand médecin, mais il était connu davantage comme philosophe, juriste, par moments astronome aussi, à ses heures. Et donc, de ce fait, il n'avait pas peut-être ses connaissances fines de la médecine. Poursuivons ensemble, donc les quatre tempéraments sont le tempérament bileux, bilieux, mélancolique, sanguin et atrabilaire. Atrabilaire ou mélancolique, c'est le même. Mais il y a un autre qui est
flegmatique, ou lymphatique.
Et ça détermine le comportement des hommes.
Oui, ça détermine le comportement des hommes. Ça a eu beaucoup de succès. Ça a duré quand même pas mal de temps.
Mais jusqu'à nos jours, hein. Jusqu'à nos jours, puisqu'on dit que les gens sont phlegmatiques, bilieux ou sanguins. On est tout imprégné de cette théorie des humeurs, bien qu'elle n'ait plus cours.
Alors nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam, aujourd'hui avec Dr Michel Canesi et Dr Jamila Ahmani pour parler de la médecine du prophète, à la fois la médecine du prophète en tant que telle, la médecine prophétique, mais aussi le titre d'un ouvrage d'Al-Suyuti, ce grand érudit du XVe siècle, dont vous annotez l'un et l'autre pour notre grand bonheur et vous traduisez l'œuvre d'Al-Suyuti que vous nous présentez pour ce 21e siècle. Alors, il y a un chapitre intitulé « Comment rester en bonne santé ?» Donc, avant d'aller voir le médecin, autant agir de telle sorte que l'on n'ait pas à se faire soigner. Et donc, c'est tout la partie préventive. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de prophylaxie. Et là, notre ami Suyuti donne des conseils.
Oui, il donne des conseils. Je vous dis, pour le manger, pour le boire, il dit que l'estomac, par exemple, est l'antre des maladies. Donc, il faut faire très attention à ce que l'on mange. Il insiste aussi beaucoup sur la propreté, sur les ablutions. C'est-à-dire qu'avant de manger, il faut s'abluer. Après manger, il faut se laver les mains. Sur l'hygiène dentaire qui prévient les caries. Hein, puisque le prophète Mohammed a dit, si je n'avais pas peur de rajouter trop d'obligations aux croyants, je les obligerais à se passer le siwak 5 fois par jour avant chaque prière.
Le siwak étant une brandy,
une sorte de dentifrice
pour l'époque, que les salafistes de nos jours privilégient par rapport au dentifrice. Ça fait partie peut-être des choses dont nous parlions tout à l'heure.
Mais non, parce que le siwak a une réelle activité. Et vous savez, le fait de se laver les dents, il y a une partie mécanique, hein, c'est-à-dire qui enlève. Et cette partie mécanique est tout à fait, ce rôle est tout à fait joué par le siwak. Et le siwak aussi a des propriétés, des propriétés antibactériennes qui font qu'il permet de lutter contre la plaque dentaire. Et c'est le siwak, le bâton de siwak, c'est beaucoup plus propre que la brosse à dents. Puisque au fur et à mesure que ça s'use, vous pouvez couper le bout et ça vous fait une brosse à dents
toute neuve.
Toute neuve.
Et écologique.
Et écologique. Oui. Non, pour le siwak, c'est vraiment une très bonne chose.
Vous le conseillez, pardon Michel Canesi, oui, à nos auditeurs alors?
Bah écoutez, c'est pas facile à trouver, hein. En France, ça doit exister.
C'est une alternative pour les puristes, pour les gens qui veulent pas utiliser de produits industriels, qui ne veulent pas utiliser de dentifrice, c'est une alternative.
Moi, ce qui me surprend dans tous ces conseils, justement, c'est le fait que c'est l'empirisme, c'est l'accumulation de science d'observation au fil des siècles qui font que Pasteur n'était pas encore passé par là. Et déjà, il y avait la notion de la prophylaxie bactérienne. Je suppose qu'aussi, par exemple, pour les accouchements, il a toujours été recommandé depuis la nuit des temps de se laver les mains, d'utiliser des linges propres, de faire bouillir de l'eau, etc. Ce sont des choses qui sont évidentes, mais qui en fait sont venues au fil des années, justement, avant qu'on puisse vraiment mettre un nom, puisque ça date de Pasteur, pas avant, sur les bactéries et leur contagiosité et leur pouvoir pathogène.
Mais en terre d'islam, et les textes religieux disent, il ne faut surtout pas déféquer aux abords d'une source pour pas souiller l'eau de boisson. Et ça, ce sont des préceptes qui datent du 7e siècle.
C'est aussi, pour parler de ce point-là, c'est faire acte de piété que de ne pas polluer des sources pour l'ensemble du vivant, pas uniquement les êtres humains. Le faire, ça relève d'un comportement inacceptable et même d'un péché. Donc, continuons dans ces différentes directives d'Al-Suyuti, qu'il a reprises lui-même de la médecine prophétique. Il y a aussi les notions du sommeil et de la veille. Là aussi, c'est le juste milieu.
Oui. Oui, c'est exactement dans la même lignée que tout le reste. Il faut, et puis il y a même, il dit même comment dormir. Il faut d'abord dormir, si mes souvenirs sont bons, sur le côté droit. Et puis ensuite,
après avoir dîné, il vaut mieux que ça soit sur le côté droit.
Oui, parce que ça permet une meilleure évacuation de l'estomac, qui se trouve justement de façon à ce que l'estomac puisse se vider plus facilement. Ce qui est vrai d'ailleurs, sur le plan physiologique.
C'est-à-dire que on a l'estomac plein, on ne va pas tout de suite s'allonger sur le côté gauche pour ne pas l'écraser en quelque sorte.
L'écraser et entraver le péristaltisme qui est le péristaltisme qui est le mouvement musculaire qui permet de faire progresser le bol alimentaire dans le tube digestif.
Dans le chapitre ou sous-chapitre des rapports charnels, bien qu'il pense que c'est quelque chose de merveilleux, de formidable, de jouissif, et qu'il faut s'adonner au plaisir, et que les ébats amoureux dans la chambre nuptiale relèvent d'un sanctuaire et d'actes de piété, là aussi, il recommande une forme de tempérance.
Oui, une fois par semaine. Hein.
Ce n'est pas la moyenne, dit-on.
Ça, c'est chacun. Mais ce qui est amusant, et intéressant,
point trop non faux.
Il préconise les préliminaires aussi.
Les préliminaires et chose qui, à l'époque, est extrêmement en avance par rapport à l'Occident, c'est que la finalité des rapports sexuels n'est pas uniquement la procréation. C'est le bien-être et c'est le plaisir. Et d'ailleurs, il dit que la contraception est licite pour peu que la femme
soit consentante
et l'homme soient tous les deux consentants. C'est ce qui reconnaît le droit de la femme
au plaisir
et sur son corps.
Oui, ce qui contraste totalement avec la pudibonderie affectée de nos jours, la fixation quasi maladive sur le corps féminin. Alors, encore une fois, et vous le dites en introduction dans l'ouvrage, que la civilisation islamique est une civilisation du raffinement, de l'art de vivre, de l'hédonisme, du plaisir, d'une manière où l'on pourrait dire carpe diem et carpe noctem.
Voilà, c'est d'ailleurs ce que vous venez de dire, c'est exactement ce qui a conduit un peu notre réflexion pour écrire cet ouvrage, cet essai. On est plutôt, Jamil et moi, habitués à écrire des fictions. On en dira peut-être un mot après. Et là, c'est ça. C'était essayer de remonter aux sources et de donner, peut-être, alors peut-être c'est de l'angélisme, je ne sais pas, mais d'essayer de donner une autre image. Revenir à l'hédonisme qui était prôné par l'islam. À l'époque.
Oui, il y a tout un mouvement maintenant qui consiste à redécouvrir cette civilisation. J'ai dit tout à l'heure la spiritualité qui la sous-tendait, l'ouverture sur le monde et l'ouverture aussi sur les beaux-arts, sur les belles lettres, sur un mode de vie de raffinement. Et ça, on le trouve dans l'ouvrage « La médecine du prophète », ce qui sous-entend que un art de vivre permet d'immuniser, si j'ose dire, contre les excès, auquel cas on n'ira pas voir le médecin.
Oui, et peut-être même plus généralement, je vais vous citer Dostoïevski, vous voyez, un petit écart culturel, qui dit « la beauté sauvera le monde ».
Dans l'idiot, oui.
Voilà, donc c'est un peu ça finalement, la beauté, oui, la beauté sauvera le monde, je ne peux pas vous dire mieux.
Donc la vertu salvifique et la dimension salvatrice de la beauté est là. On ne peut pas s'attendre à quelque chose de bien de quelqu'un qui n'est pas sensible à la beauté.
C'est tout à fait ça.
Oui, tout à fait ça. Et comment est-ce qu'une religion qui porte à ce point au pinacle la santé des croyants, qui défend à ce point la vie, qui dit que le corps des hommes leur a été confié par Dieu, a été mis en dépôt par Dieu et qu'ils ne peuvent que bien s'en occuper, et qu'à ce titre, ils doivent protéger non seulement leur vie, mais protéger la vie des autres. Comment peut-on dire que cette religion est une religion de mort et de violence ?
Hélas, oui, quand certains qui commettent l'irréparable le commettent en son nom, tout en se prévalant. Donc ça, c'est une régression terrible.
Je peux vous citer un instant,
je vous en prie,
qui m'a frappé. Quelle piètre altération de l'esprit vivifiant d'une tradition religieuse que de l'avoir enquistée dans le radicalisme. C'est de vous.
Oui, mais merci, simplement. Il ne s'agit pas de moi ni de ma petite personne ici.
C'est-à-dire que je voulais citer cette phrase parce qu'elle m'a touché et parce qu'en fait, elle est en accord avec ce que nous avons voulu faire, enfin, à notre modeste place.
Mais vous le faites bien, sincèrement. Je voudrais, si vous voulez bien, aborder la question du jeûne et de la diète. Bon, il y a la prescription pour les observants parmi les musulmans du jeûne du mois de Ramadan, mais indépendamment du jeûne, il y a aussi la diète qui est prescrite de temps à autre pour les musulmans et musulmanes, ou pour quiconque d'ailleurs qui veut suivre les directives et les prescriptions de la médecine.
Mais vous savez qu'en Occident, il y a une grande mode. Hein. Il y a la mode de la diète et du jeûne. Dans la Silicon Valley, vous avez des sociétés qui font jeûner leur cadre pendant 3 jours. Et les dirigeants de ces sociétés disent, écoutez, il y a une augmentation de la productivité qui est extraordinaire. C'est vrai que les gens ne perdent pas le temps à manger, donc ils travaillent.
Ils prennent des soupes, j'ai cru comprendre.
Ils boivent. Non, mais ils boivent. Mais ils ne mangent rien de consistant pendant 3 jours. Et ils disent que le dernier jour du jeûne, c'est la journée où il y a le plus de productivité. Bon, bah écoutez, peut-être. En tout cas, les bienfaits du jeûne sur la santé, ils ont été démontrés, mais simplement parce que ils diminuent les apports caloriques et que c'est la restriction calorique et c'est la diminution des sucres et des graisses qui est bénéfique. Ça n'est pas le jeûne stricto sensu qui est bénéfique. Et d'ailleurs, on a fait des expériences chez les souris cancéreuses. On les a affamées. Et puis, on leur a permis de manger ce qu'elles voulaient. Et on s'est rendu compte que, en fait, si on ne les affamait pas et si on leur permettait de manger normalement, il n'y avait aucune différence dans la survie des souris. Strictement aucune. Donc le jeûne, pour l'instant, n'a pas démontré son efficacité dans le cancer ou dans d'autres maladies. C'est, si on diminue son alimentation, c'est bénéfique parce que ça vous fait perdre du poids.
Ce n'est pas une approche de concordisme comme certains s'y plaisent, c'est simplement là un constat, que dois-je dire, empirique, ou c'est tout simplement le bon sens aussi.
Bah écoutez, c'est un constat scientifique que la diminution de la ration calorique augmente les défenses immunitaires et diminue les risques d'athérome, etc., etc. Hein, ça s'est prouvé que la réduction calorique, ce que prône d'ailleurs Essouyouti en disant il faut pas manger beaucoup, hein, et il faut manger de façon équilibrée. Et notre alimentation dans les années 50 en Afrique du Nord était rejoignait les conseils de l'islam, c'est-à-dire que on n'était pas riche, on mangeait pas beaucoup de viande et on mangeait plein de légumes et c'était une alimentation qui était saine.
Et il y avait très peu d'obèses.
Et il y avait très peu d'obèses.
Et il y a une autre chose dont on s'est rendu compte et qui est...
Moi, je le connais parce que les archives cinématographiques présentées comme ça, je n'ai pas vu des gens obèses dans tout ce que j'ai pu voir à la télévision ou au cinéma pour cette période-là.
C'est vrai, c'est juste. C'est vrai qu'on voyait beaucoup moins d'obèses. Moi, la première fois que je suis allé aux États-Unis, j'ai été frappé par le nombre d'obèses qu'on croisait dans les rues. Ça n'a pas été en s'arrangeant. Il y a un autre élément dont on s'est rendu compte et qui est assez amusant, c'est que les poubelles aujourd'hui se remplissent à vitesse grand V, alors que dans notre enfance, c'était pas le cas, puisqu'il n'y avait pas d'emballage à ce point, et tout ça est vraiment un changement radical de mode de vie.
J'ai vécu en Algérie jusque dans les années, fin des années 70. Et c'était la période boumédienne où il y avait très peu d'importations, où ce qu'on mangeait, c'était les produits du terroir, quoi. Enfin, il y a des légumes, de la viande. De temps en temps, il y avait des fromages. On se ruait sur les magasins pour acheter du fromage français. Mais il y avait très peu de produits industriels. Et les poubelles, se remplissait lentement. Et quand je suis venu en France pour faire mes études d'anesthésie, j'étais effaré de voir que à chaque fois que je mangeais quelque chose, je gaspillais du plastique, je gaspillais du papier, je gaspillais du verre ou de l'aluminium.
Et toujours avec cette fameuse affaire des dates limites de consommation, la DLC, sur laquelle on revient, je comprends maintenant.
Oui, parce que évidemment, ça provoque beaucoup de gaspillage.
Alors, si vous voulez bien, docteur, au duel, au pluriel, passons à un autre chapitre, à une autre partie, à un autre portique, on disait à ce moment-là, le mouvement et le repos. Et je soumets à votre sagacité quelque chose qu'il y a dans le commentaire moyen de la République de Platon d'Averroès, qui est que le gymnase est un lieu ouvert aux garçons et aux filles. C'est-à-dire que l'activité sportive, on dirait de nos jours, l'exercice du corps, ce n'est pas quelque chose qui est fait d'une manière discriminatoire entre les garçons et les filles. Et si les filles s'adonnaient aux activités sportives, elles doivent s'habiller d'une manière adéquate.
Adéquate pour faire du sport,
oui.
Vous voulez dire, oui.
Donc,
pas entravé, c'est ça que
pas
vous
entravé.
Pas entravé. Oui, ça,
ou approprié, du moins.
Approprié, oui. Ça m'évoque justement une chose qui m'avait... Vous parlez de ça, et je me souviens au Maroc, nous avons voulu un jour aller faire du sport dans une salle de sport et il y avait une séparation entre le parking pour les hommes et le parking pour les femmes. Ça commençait là. On a été très choqués de ça et tu as remarqué que l'année dernière, ça n'existait plus. Donc, comme quoi, quelquefois, vous voyez, effectivement... Bon, ça c'est une question...
Conjoncturelle.
Conjoncturelle, oui. Et puis c'est vrai que quand vous faites du sport, il faut vraiment avoir des vêtements amples qui vous permettent de développer les mouvements. Sinon, je vois pas l'intérêt d'aller faire du sport. C'est même dommageable pour la santé, très vraisemblablement. Je vois pas... Comment on peut faire autrement que de porter des vêtements amples et de faire des mouvements sans aller jusqu'à l'excès de transpiration comme le préconise Assouyouti.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Nous parlons aujourd'hui de médecine, médecine et islam, le lien, par le biais de la médecine du prophète, comme titre de l'ouvrage d'Assoyouti, et qui, heureusement pour nous tous, Michel Canesi et Jamil Rahmani nous le présentent bien annoté, bien commenté, bien introduit pour le commun des citoyens français et au-delà, pour tout francophone. Et nous étions en train de parler du mouvement et du repos. Alors, les disciplines préconisées à ce moment-là, c'était le tir à l'arc, l'équitation, oui, la natation, parce que le prophète avait parlé de ça. Mais de nos jours, il aurait pu parler du polo, il aurait pu parler du rugby, que sais-je encore. Donc, ce n'est pas que ces disciplines qu'il faut pratiquer.
Non, bien sûr.
Elles sont datées dans leur époque.
Voilà, tout simplement.
Elles sont datées dans leur époque, tout simplement. Bon, cela dit, pour avoir essayé de pratiquer personnellement le tir à l'arc, c'est extrêmement difficile. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous n'avez jamais fait ça, si?
Non, mais j'imagine qu'il faut d'abord de la concentration.
Voilà.
De la précision.
La précision, la concentration. C'est pas très... Enfin... Sauf, je suppose qu'à l'époque, peut-être, ils tiraient à l'arc sur des chevaux au galop. Alors là, ça doit être encore une autre histoire. Mais c'est pas très physique, c'est plutôt intellectuel, le tir à l'arc en tant que tel.
Et vous aussi, parce que je vous ai posé la question, Jamil Rahmani, c'est qu'on entend quelques-uns, dès lors que le prophète de l'islam, dans son aphorisme connu, apprenait à vos enfants... le tir à l'arc, l'équitation et la natation, certains prenant au pied de la lettre l'injonction prophétique, dédaignent d'autres disciplines sportives et ne veulent pratiquer que celle-là pour leurs enfants.
Vous savez, les textes sacrés doivent être interprétés et doivent être mis dans le contexte. On a reproché à l'islam ces versets violents, mais ils correspondent à une période donnée. Et toute religion a sa part de violence. Hein. Quand vous lisez le Lévitique, par exemple, ou quand vous lisez l'Évangile selon Saint Luc, vous avez des appels, des appels au meurtre de Jésus. Alors il faut absolument les replacer dans le contexte.
Simplement et heureusement de nos jours, très peu, voire pas du tout, ne se prévalent ni des écrits vétérotestamentaires, ni de ce passage de Saint-Luc, et on continue, hélas, à avoir des illuminés exaltés, des criminels, des assassins, qui se prévalent de ces versets dits belliqueux ou belligènes ou violents. Donc il y a un énorme travail chez les théologiens pour dire une bonne fois pour toutes que cette manière d'aller chercher la caution du texte pour la violence, c'est inacceptable.
Vous voyez, d'ailleurs, cet ouvrage, c'est une sorte de message subliminal que nous avons essayé d'adresser. C'est vraiment un message subliminal. Sans rentrer dans les polémiques, etc., c'est une façon de dire, voilà aussi ce que c'est
que l'islam.
C'est aussi ça. C'est tout.
C'est principalement ça.
Ouais.
C'est-à-dire, c'est la défense de l'intégrité du corps humain, que ce soit son corps ou le corps de l'autre.
Oui, celui qui fait périr une vie humaine, il a tué l'humanité toute entière.
Exactement.
Et celui qui sauve une vie humaine...
Je trouve ça très beau, d'ailleurs.
Il a sauvé l'humanité toute entière, le fameux verset 32 de la sourate 5, qui rend la dignité d'un seul homme consubstantielle à la dignité de l'humanité toute entière.
Complètement.
Et donc le respect de la dépouille mortelle, déjà est là, mais du vivant, l'intégrité physique et morale de l'homme est quelque chose de sacré. Michel Canesi, on a parlé là des aspects corporels ou charnels qu'il faut savoir préserver, puis guérir et soigner quand il y a telle ou telle affection. Mais il y a, le mais n'est pas une restriction, mais il y a une partie consacrée aux affections de l'âme. Donc, Soyouti s'est intéressé aussi, se référant à la médecine du prophète, aux affections de l'âme, à la mélancolie, à des considérations un peu psychologiques, à une thérapie de l'âme.
La thérapie de l'âme, on l'exerce tous les jours. C'est ça qui fait la magie de l'acte médical et de la relation entre un médecin et son patient. Vous savez, moi je suis dermatologue. Bon, et je vais vous donner un petit élément de biologie que, de biologie que peut-être vous ne connaissez pas, c'est que l'embryon quand il se forme est fait de trois couches. Ectoderme, mésoderme, endoderme. L'ectoderme va devenir la peau, ecto parce que c'est la partie la plus superficielle. Eh bien, savez-vous qu'au bout d'un moment, un morceau d'ectoderme s'invagine dans le corps et devient le système nerveux et le cerveau. Donc, tout cela veut dire que, pour ce qui concerne ma spécialité, en fait, le cerveau est un morceau de peau qui s'est invaginé à l'intérieur du corps. Simplement ceci pour vous expliquer toutes les connexions qu'il peut y avoir entre la peau et le cerveau. Et je pense qu'on ne peut pas être un bon dermatologue, je parle pas pour moi, si on méconnaît cet aspect-là des choses. Cet aspect des choses a été aussi révélé par un poète, par Paul Valéry, qui a dit « Ce qu'il y a de plus profond chez l'homme, c'est sa peau ». Voilà, avec ces deux choses-là, on comprend comment, pour ce qui me concerne, dans ma spécialité, le fait de s'intéresser au psychisme, à l'aspect, j'irais même au-delà, c'est de percevoir dans chaque être qui vient vous raconter son histoire, presque l'aspect divin, de la dimension divine d'une personne et qui vient vous confier ses souffrances. Donc, si on ne comprend pas ça, on passe à côté de son métier, on le fait mal.
Et docteur Rahmani, cette fois-ci, c'est à l'anesthésiste que vous êtes, puisque vous avez évoqué votre spécialité, Michel Canesi. Vous voyez des connexions dans cette thérapie de l'âme, le regard intérieur que vous portez sur vos patients.
Oui, bien sûr. Vous savez que maintenant, il y a une nouvelle dimension de l'anesthésie, c'est l'hypnose. Et que grâce à l'hypnose, on peut faire un certain nombre de gestes. Et donc, ce qui montre que la dimension psychologique de notre métier est importante. Quand nous sommes là, en tant qu'anesthésiste, vous savez que l'acte d'anesthésie est extrêmement anxiogène, hein, se faire. Et les patients ont surtout peur.
De ne pas se réveiller.
Ils n'ont pas peur de l'acte chirurgical. Parce que nous, ce qu'on fait, c'est donner le sommeil. Mais ce qui est le plus dangereux, c'est l'acte chirurgical. Parce que là, vous agressez l'intégrité d'un corps. Vous allez ouvrir la peau, enlever un organe. Mais non. Mais ce qui fait peur. Et tout notre art, c'est de dire aux patients, les choses vont bien se passer, ne vous inquiétez pas, leur donner confiance, espoir. Et on sait que la confiance, l'espoir, ça a une grande importance dans la guérison, dans le déroulement d'un acte chirurgical.
Les choses se poursuivent comme ça, tranquillement avec vous, messieurs. Dans cette partie affection de l'âme, moi j'ai été frappé d'un point que je considère être important, c'est ce conseil du prophète à ne pas se laisser gagner par la colère, se maîtriser devant la colère et donc se garder de la colère. Et la meilleure façon de ne pas affecter son âme,
c'est de rester zen. Et il a même condamné le deuil en disant que le deuil, en fait, c'est une rébellion contre Dieu, puisque c'est le refus, en fait, c'est le refus de la sentence divine, d'une part, et d'autre part, c'est une très mauvaise chose pour le psychisme que d'être triste.
On pourrait presque dire que le deuil, c'est une douleur, une colère intériorisée.
Une sorte de révolte.
Bah, c'est une rébellion.
Une rébellion.
Contre la destinée.
Pour les tout derniers moments, Je voudrais revenir, si vous voulez bien, aux aspects de l'hygiène et de beauté extérieure. Donc, le fait de s'occuper de ses ongles, de sa peau, voilà quelque chose qui vous parle, Michel Canesi. Le fait de s'occuper de ses cheveux, de sa, de une toilette corporelle, c'est aussi de la plus haute importance.
Oui, oui, c'est l'islam, c'est la religion de la propreté.
Et conformément à l'aphorisme, l'hygiène ou la propreté sont une marque de foi.
Oui. On ne peut pas être un bon musulman si on n'est pas propre. Et cette propreté, elle doit s'exprimer au niveau des mains, au niveau des extrémités du corps, au niveau des cheveux. Et il est prescrit au moins un bain par semaine, le vendredi. Et il est prescrit aussi de se parfumer.
Pour soi et pour ne pas incommoder ses relations d'une manière générale par des odeurs.
Vous savez que le prophète avait dit surtout ne venez pas à la mosquée après avoir mangé de l'ail ou de l'oignon parce que ça c'est très incommodant.
Bien, peut-être encore un mot, c'est pas pour revenir au rapport charnel, mais je suis frappé de voir toute cette liste de produits aphrodisiaques.
Donc, Suyuti nous en cite beaucoup.
Ça, c'est complètement empirique. Hein. Je ne sais pas si ça fonctionne. On les a gardés. Vous voyez, parce que ça, c'est l'aspect poétique qu'on a voulu. Et puis ça intéresse toujours un peu tout le monde, cette histoire, sauf les cornes de rhinocéros dont on ne parle pas, mais qui ont décimé tous ces pauvres animaux. Et donc voilà. Mais
ce n'est pas dans la liste.
Non,
ça
n'est pas dans la liste. Non, ça n'est pas dans sa liste à lui.
Bien. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ?
Écoutez, à la fin, si à la fin du livre on cite un poème et qui est très révélateur de je peux le lire si vous voulez, qui est très révélateur du livre et du message du message qu'il veut transmettre. C'est ça s'appelle Philosophie de vie et c'est le Libanais Ilia Abou Madi.
Ah oui, à propos de ne pas désespérer. Oui.
Malgré la nuit, sois un astre qui baigne les forêts, les fleuves, les plaines et les collines. Et non des ténèbres obscures qui, détestant le monde, jettent sur les hommes un si sombre voile. Toi qui te plains, alors qu'aucun mal ne t'atteint, sois beau et tu verras alors la beauté de la vie.
Oui, c'est le poète de l'optimisme, comme on l'appelle, Ilia Abou Madi. Sur ces vers, nous finissons notre émission. Merci à vous deux. Merci à Michel Canesi, à Jamil Arahmani. Vous nous avez bien entretenus de la médecine du prophète. Chers amis auditeurs, c'était Question d'Islam. Vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Daphné Abkral. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Victoria Asper et la réalisation a été assumée par l'ami François Connac.